Bonjour et bienvenue à l'épisode spécial de Radio Sesseur dédié au Patch Tuesday de septembre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, toujours en direct d'Olympe. Aujourd'hui, je vais vous parler des vulnérabilités corrigées par Microsoft pour ce Patch Tuesday, dont 4 Zero Day activement exploités. En nous concentrant sur les aspects techniques clés pour nos équipes de réponse à incidents ainsi que pour vous, chers CISO. Je vous propose une vue synthétique des vulnérabilités les plus sensibles et des actions concrètes pour prendre les mesures à appliquer dans vos infrastructures. Commençons par une revue d'ensemble de ce Patch Tuesday. Microsoft a corrigé 79 vulnérabilités qui se répartissent de la manière suivante. 30 vulnérabilités d'élévation de privilèges. Ces failles sont particulièrement préoccupantes car elles permettent aux attaquants d'obtenir des privilèges administratifs, ils deviennent admin, des systèmes et compromettent ainsi la sécurité des systèmes multi-utilisateurs. 23 vulnérabilités d'exécution de code à distance. L'exécution de code à distance, pour rappel, est souvent le point d'entrée pour des campagnes de malware ou de ransomware. 11 vulnérabilités de divulgation d'informations, 8 failles de déni de service, 4 contournements de sécurité, et enfin 3 vulnérabilités de falsification, ce qu'on appelle du spoofing. Nous allons discuter ensemble aujourd'hui principalement des zero day activement exploités, ainsi que des recommandations à notre disposition.
Alerte générale ! 24 heures sur 24 !
La première vulnérabilité en zero day, c'est la CVE 2024-38014. C'est une élévation de privilèges via Windows Installer. Cette vulnérabilité a été découverte par Michael Baer de SecConsult Vulnerability Lab. C'est une vulnérabilité qui permet à un attaquant d'exploiter un bug dans Windows Installer pour obtenir des privilèges système, ce qui offre un contrôle total sur la machine. L'exploitation de cette faille est typiquement utilisée dans des attaques post-exploitation, où un attaquant a déjà un accès limité et cherche à étendre ses privilèges. Ce type d'attaque peut être automatisé dans des environnements où des utilisateurs possèdent déjà des droits locaux. La recommandation est d'appliquer immédiatement le correctif disponible dans la mesure du possible, et si cela n'est pas possible, réduire la surface d'attaque en limitant les privilèges d'installation d'applications par des utilisateurs non administrateurs et en renforçant les politiques de segmentation des droits. La seconde, Zero Day, la CVE 2024-38217, elle permet le contournement de la sécurité de Mark of the Web. C'est Joe DeSimone d'Elastic Security qui a découvert cette faille, qui est exploitée déjà depuis 2018. C'est une technique qu'on appelle le link stomping. Ce sont des fichiers LNK malveillants qui sont modifiés pour permettre de contourner les protections contre le Smart App Control et le Mark of the Web, ce qui permet à des fichiers téléchargés d'exécuter des commandes sans déclencher les avertissements de sécurité de Windows. L'exploitation de ces failles est simple à réaliser. Les fichiers LNK sont souvent envoyés via des emails de phishing ou téléchargés depuis des sites compromis. Lorsqu'un utilisateur exécute un tel fichier, l'attaquant peut déclencher un payload, ou une payload, sans alerte de sécurité de la part du système. La recommandation, c'est de mettre en place des politiques strictes de gestion des fichiers LNK, de renforcer les filtres anti-phishing, de limiter également les extensions autorisées sur les systèmes et assurer un contrôle strict sur les fichiers en provenance de sources externes. Personnellement, une couche de sensibilisation est aussi un excellent moyen et qui coûte beaucoup moins cher. Mais il faut mettre le patch, hein. La troisième Zero Day, la CVE 2024-38226, permet le contournement des politiques de macro dans Microsoft Publisher. Cette faille permet de contourner les politiques de sécurité qui bloquent les macros de Microsoft Publisher, et bien que Microsoft n'ait pas révélé le chercheur derrière cette découverte, elle expose les utilisateurs à des attaques via des documents téléchargés, notamment en exécutant ces fameuses macros malveillantes. Son exploitation est assez triviale. Les attaquants peuvent injecter des macros dans des documents publishers, souvent utilisés dans des contextes d'entreprise ou d'administration. Les utilisateurs qui ouvrent ces documents permettent l'exécution de scripts malveillants en arrière-plan. Et les recommandations sont la mise en place de politiques de blocage strictes des macros et sensibiliser les utilisateurs sur les risques des macros dans les documents non vérifiés. Ouais. Bon, alors ça c'est la recommandation éditeur. Dans la vraie vie, ça marche pas tout à fait comme ça. Le plus simple, c'est quand même d'implémenter des outils de sandboxing pour isoler les fichiers non fiables avant exécution. La sandbox va exécuter la macro dans un environnement protégé et surtout, c'est d'appliquer le patch. Enfin, la Zero Day, la CVE 2024-43491, permet une exécution de code à distance via Windows Update. Le contexte technique pour cette Zero Day, ça concerne essentiellement les systèmes Windows 10 version 15.07. C'est vraiment une vieille version, elle est très obsolète, mais elle est encore largement utilisée. Et en particulier sur les versions Enterprise. Cette vulnérabilité exploite une faille dans la pile de services de Windows qui permet de réintroduire des vulnérabilités précédemment corrigées. C'est génial. Ils ont trouvé le moyen de réinjecter des vulnérabilités sur des systèmes qui avaient été corrigés. Et ça touche des composants assez sensibles comme Active Directory Lightwave, Directory Services, 2IS, Internet Explorer 11, le Windows Media Player. Et cette exploitation de cette 0-day par l'attaquant, elle va permettre à toutes ces versions qui sont non mises à jour d'exécuter du code à distance et de compromettre ainsi tout le système. Bon, la recommandation, elle est simple. Hein. C'est une 0-day, on applique le patch. Hein. Et puis, on cherche pas à comprendre, on applique le patch. Maintenant, parlons un petit peu plus des mesures spécifiques pour nous, équipe de réponse à incident. Bah, la gestion des correctifs, ça commence déjà par identifier les priorités qui on va faire en premier. Quand vous avez deux serveurs, c'est hyper facile. Quand vous en avez 4000, 5000, 10000, 80000, on parle plus de la même chose. Donc les failles d'élévation des privilèges et les RCE, ça doit être corrigé par priorité et il va falloir hiérarchiser ces systèmes où ces failles sont potentiellement exploitées. Ça, c'est la théorie. Et maintenant, dans la vraie vie, bah, on va appliquer d'abord les correctifs sur des environnements test avant de les déployer à grande échelle et en particulier sur les infrastructures de production. C'est le premier truc à faire. C'est de savoir est-ce que l'application du patch ne va pas dégrader mon service, est-ce que je vais avoir un plus grand risque que celui de la compromission. La deuxième chose pour vous aider, c'est de mettre en place, alors ça se fait pas au moment de la sortie du patch Tuesday, hein. On va considérer que vous avez un petit peu de temps pour le faire. Là, vous allez appliquer le patch pour le mois de septembre, et puis pour les mois qui vont suivre, vous allez proposer ça à vos DSI, et à vous ainsi qu'à vos responsables. C'est la détection des anomalies ou des alertes. Ça veut dire que vous allez implémenter des outils de détection et d'intrusion, type des IDS ou des IPS, pour identifier les comportements anormaux, comme des tentatives d'escalade de privilèges ou l'exécution de fichiers LNK suspects. Et après, vous allez mettre en place ce qu'on appelle des correctifs automatisés. Donc, ça va être utiliser des scripts pour isoler les systèmes suspects ou corriger des vulnérabilités connues en temps réel. Vous avez fait votre première campagne de patching sur les systèmes de test, vous êtes confiant, mais vous ne pouvez pas patcher vos systèmes de prod immédiatement. Et bien, grâce à ces correctifs automatisés, entre guillemets, ou ces playbooks, si vous les appelez de termes techniques, ben dès que quelqu'un va essayer de faire une élévation de privilège, vous savez que vous avez une vulnérabilité qui va concerner ce qu'il est en train de faire, ben vous patchez en live. Et le gars se retrouve bloqué. Et puis, vous pouvez intervenir. Ensuite, le dernier point, c'est le renforcement des politiques de sécurité. Et oui, il faut faire un petit peu de politique. Ça ne sert pas uniquement à caler des armoires, les PSSI. Donc, tout ce qui concerne les macros et fichiers LNK, bah, c'est de bien mettre dans la PSSI de bloquer les macros par défaut et n'autoriser que des macros signés numériquement. C'est quand même la même chose qu'on parle dans tous les patch Tuesday. Hein. Limiter strictement les extensions de fichiers acceptées sur les réseaux internes, la sensibilisation des utilisateurs, c'est un point crucial. Vous gagnerez cette guerre contre la cybercriminalité et contre les compromissions des systèmes avec vos utilisateurs. C'est pas contre eux. Il faut vraiment qu'ils soient formés aux bonnes pratiques de sécurité, être vigilant face aux emails de phishing et à la manipulation de fichiers en provenance de sources non vérifiées. Ne pas hésiter à leur fournir ce qu'on appelle des boîtes blanches. Ils reçoivent un fichier, c'est une boîte blanche, ils l'ouvrent dedans et ça peut le faire. Il y a des sandbox qui existent, ça peut être un peu onéreux pour certains types d'entreprises, mais vous avez après des postes que vous pouvez isoler pour ce type de choses, avec tout ce qui va bien, les antivirus, les EDR, tout. Et ben voilà, on y arrive. Et pour le patch Tuesday de septembre 2024, ça montre une fois de plus que les vulnérabilités 0-day sont une menace constante, que leur exploitation sont actives, c'est un vrai danger, c'est pas juste pour crier au loup, hein. C'est que ça, en ce moment ils sont en train de compromettre des systèmes. Il est vraiment impératif d'appliquer ces patchs sans délai, tout en renforçant les politiques de sécurité interne. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Radio CSERT. N'hésitez pas à mettre des commentaires soit sur LinkedIn, soit sur YouTube, où on l'est aussi publié. Je lis les commentaires, j'améliorerai les épisodes de Patch Tuesday au fur et à mesure. Est-ce que vous souhaitez avoir des épisodes beaucoup plus techniques, plus complets? Est-ce que vous souhaitez qu'on passe en revue les 79 vulnérabilités, par exemple? J'ai fait une petite simulation, on partirait sur un épisode qui durerait pas loin de 2 heures. Je pense qu'on va perdre du monde. Déjà 5 minutes à parler tout seul ou 10 minutes, c'est déjà compliqué, mais 2 heures, J'ai pas vu comment on pouvait faire quelque chose de sympa, de fun. Et puis, je vous mets les liens en description, allez sur le site de Microsoft. Il y a des articles anglophones qui sont très bien faits, que ce soit sur Bleeping Computer, sur Crabs and Security. Mais comme la ref, c'est Microsoft, c'est juste qu'il faut se taper la liste, quoi. Parce qu'ils ont mis tous les systèmes, ça touche les systèmes, des Windows Server, des Windows 10, des Windows 11. Il y a des applicatifs, et il y a celles qui sont vraiment importantes, et puis les autres qui vont l'être un peu moins, quoi. Donc en tout cas, moi je vous remercie énormément de m'avoir suivi. Si vous êtes allé jusque là, c'est super cool. Il est 1h du matin, 2 épisodes dans la soirée, c'est dur. On se retrouve tout à l'heure parce qu'il y en aura quand même un autre en fin de journée. J'espère que ce Patch Tuesday va se passer super bien pour vous. Faites attention à vos systèmes, vérifiez les systèmes vulnérables, regardez les signaux faibles, hein. Généralement ça paye, hein. Bon, bah, tout à l'heure. Alors, pour les plus curieux, le morse que vous entendez, c'est Radio Sessert. Si vous avez oublié vos cours de morse, je vous en remettrai une autre fois. Bonne nuit.